RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Vous nous rejoignez au 32-16, vous en avez l'habitude, c'est le chemin le plus court, le plus direct pour intervenir dans nos discussions. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, l'avocat Charles Consigny est des nôtres. Bonjour mon cher Charles.
Bonjour à tous.
Avec toi on parlera tout à l'heure de la colère des avocats contre la réforme de la justice et le plaider coupable pour désengorger les tribunaux. Elle a des allures printanières, heureusement, parce oui. Que ici, dans là. Le nord du pays, au-dessus de la loi, on se les caille, on se gèle un peu. Bonjour Joël Dagosséry, coach de vie.
Bonjour à tous.
Et puis nous sommes avec un petit nouveau aujourd'hui dans les GG, c'est l'ancien patron d'Haribo.
C'est oui. C'est beau la vie, voilà. Pour les grands et les petits.
Okay, comme ça c'est dit.
Voilà, il s'est identifié, il est chef d'entreprise, c'est Jean-Philippe André qui est des nôtres. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour les grandes gueules.
22 ans chez Danone, 4 ans chez Heineken, 19 ans chez Haribo, et le débat avait commencé avant même le générique. Charles Consigny accusait Jean-Philippe d'avoir
empoisonné les enfants pendant 20 ans.
Empoisonné, massacré les dents de nos enfants.
Et moi, je lui ai répondu qu'on a vendu beaucoup de bonheur, des petits plaisirs au quotidien pendant 20 ans.
Voilà. Oui, l'industrie du tabac dit la même chose.
80 000 tonnes.
Criminel.
80 000 tonnes de bonbons vendus chaque année.
Ah, c'est à peu près ça. C'est, là, quand on se parle, c'est 30 bonbons consommés toutes les secondes.
30 bonbons.
C'est fantastique aventure.
Ouais. Donc, quel est le bonbon le plus vendu chez Haribo?
Les c'est les mélanges.
Crocodiles. Non,
d'abord, de manière générale, c'est les mélanges. C'est les mélanges. Ouais. Et après, il y a Dragibus, Tagada, les Schtroumpfs, les crocodiles.
Les crocodiles, non, c'est délicieux, les crocodiles.
Les crocodiles.
Ah, ouais.
Ah, c'est délicieux,
les crocodiles. Meilleur que la fraise Tagada. Voilà.
Charline, au bout de 5 minutes, au bout de 5 secondes,
ouais,
déjà,
bien,
on arrive à le.
La fraise Tagada, voilà. C'est la meilleure.
Jean-Philippe, c'est le chef d'entreprise qui est avec nous, c'est le manager qui va discuter avec les GG, avec vous au 32-16. Donc Charles, Joël, Jean-Philippe, on a justement une actualité sociale, une actualité économique intéressante dans ce pays qui a toujours du mal à se réformer, à se remettre en cause. Tiens, on va parler d'un rêve du gouvernement. C'est pas le premier d'ailleurs, c'est plusieurs gouvernements qui se sont cassés les dents quand même sur ce dossier. C'est celui de la réforme des allocations, c'est de transformer tout ça en ce qu'on appelle une ASU, c'est l'acronyme, une allocation sociale unique. C'est le dossier chaud que le gouvernement voudrait lancer. En fait, ce serait une fusion pour aboutir à une allocation unique.
Oui, c'est à la une du quotidien aujourd'hui, Le Parisien. L'ambition de ce projet, c'est de rassembler le RSA, qui est touché par 1 800 000 Français, la prime d'activité, qui est touchée par 9 millions de Français, et les APL, les aides au logement, que 13 millions de Français touchent également chaque année. On rassemble tout ça dans une seule allocation sociale. Le gouvernement veut que les Français qui d'ailleurs oublient de demander leurs aides puissent le faire, donc ça veut dire qu'il y aurait des gens qui seraient gagnants, qui pourraient toucher peut-être des aides qu'ils ne touchent pas. Il y aura aussi peut-être des perdants, parce que l'idée ça doit se faire à euro constant, donc c'est pas une réforme vraiment qui va faire des économies. Bon, enfin, l'idée c'est pas dépenser plus d'argent, mais ça serait plus simple à gérer, et quand même le gouvernement voudrait montrer que le travail paye plus que les seules aides sociales. Alors, est-ce que vous y croyez? C'est un vieux projet. En France, c'est très compliqué de changer les choses. Donc, on verra si ça fonctionne, si le cornu arrive à mener à bien ce projet. Mais c'est une vieille idée. Est-ce qu'elle serait utile? Est-ce que vous la souhaitez? Ou est-ce que vous craignez une nouvelle usine à gaz?
Alors, transformer le RSA, les appels et la prime d'activité, les regrouper dans une allocation sociale unique. 32-16 pour en parler avec les GG. Joël.
Alors, est-ce que vous la souhaitez? C'est la question d'Olivier. Je ne sais pas s'il y a un Français qui s'est couché hier soir ou même avant-hier soir en se demandant, tiens, ce serait sympa si le gouvernement fusionnait le RSA, l'APL et autre chose. Ouais, oulala, ça me changerait mon quotidien. Donc, je pense que personne n'a jamais souhaité ça.
Plus simple.
Personne n'a jamais souhaité ça. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé quand même combien ça nous coûte, cette petite manœuvre. J'appelle ça de la barbouzerie. Ça coûte 1 milliard d'euros de fusionner les systèmes, puisque c'est informatique, hein, il va falloir fusionner les systèmes pour contrôler tout ça. Ça coûte 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros qui ne vont pas être alloués à la revalorisation du travail, à faire baisser des charges. Non, pas du tout. Non, nous, quand on a des milliards à injecter, c'est pas dans le travail. Non, c'est comment on fait pour accentuer l'assistanat, les aides sociales. Qu'est-ce qu'on met en place comme nouvelle bureaucratisation pour gérer
pour
cette
toi,
machine.
C'est pas une simplification.
Donc, c'est pas une simplification. D'autant plus que quand tu fusionnes l'APL, le RSA et machin chose, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se disent, attends, je vais calculer, parce que alors là on est très fort en calcul, je prends ma petite calculatrice, est-ce que ça me coûte moins cher, plus cher d'aller travailler? Et ils se disent, tiens, c'est pas si avantageux que ça, parce qu'en fait si je fais un petit peu plus, je perds et l'APL et le RSA
avec
et la facture elle est quand même salée. Donc du coup moi je suis pas sûre que vraiment ça va encourager, enfin je sais pas quelle est l'intention derrière, mais je suis pas sûre qu'elle soit bonne.
Déjà c'est de simplifier. C'est au moins on regroupe tout dans un même dans une même allocation, alors qu'on a plein d'aides sociales ici ou là. Et d'ailleurs il y a des gens qui ne perçoivent pas leur aide sociale alors qu'ils y ont droit.
Ouais. Charles, je comprends pas comment ça fonctionnerait. Si tu perçois de quoi tu percevras une allocation unique, que ce soit pour le logement, pour
la prime d'activité, le RSA.
Le RSA, mais c'est pas un cumul des trois aides. C'est une aide qui couvre tout ce scope.
Oui.
Ouais. Je sais pas. Moi, je trouve qu'on devrait s'alarmer sur les chiffres. 13 millions de personnes qui perçoivent les APL. C'est complètement con. Ça montre qu'en fait, il y a un problème sur le prix des logements. Et c'est pas normal sur un pays de 70 millions d'habitants que vous en ayez 13 millions qui ont besoin d'être aidés par l'État pour payer leur loyer.
C'est un problème de salaire.
Ce qu'on voit, c'est un problème de salaire, mais c'est aussi un problème tout bête qui est que l'APL, quel est son effet le plus direct? C'est qu'elle augmente le prix des loyers.
Ça crée un effet d'aubaine.
Bah évidemment,
pour le propriétaire.
Ça fait qu'il y a énormément de logements qui seraient sans doute loués un peu moins cher s'il n'y avait pas l'APL, mais le propriétaire se prend au passage l'APL. Je suis sûr que si on fait l'étude des 13 millions d'allocataires de l'APL, vous en avez plein où en fait ils auraient tout simplement un loyer moins cher s'il n'y avait pas d'APL. Donc, mais bon, on voit bien.
Quand on a voulu baisser le
psychodrame.
Les APL, ça a été un psychodrame.
Oui, moi je pense qu'il faudrait supprimer les APL.
Ah, carrément.
Comme ça, on. Mais oui, et vous verrez que. Oui, mais c'est pas grave, vous verrez que vous aurez des baisses de loyer si vous supprimez les APL. Vous aurez des baisses de loyer. Premièrement. Deuxièmement, la prime d'activité, qui consiste quand même à encourager les gens parce qu'ils vont travailler. Bon, je suis pour la suppression de la prime d'activité. Et vous verrez que vous aurez des augmentations de salaire. Parce que si vous supprimez les APL, si vous supprimez la prime d'activité, etc., si vous supprimez ce système qui ne fonctionne pas, on le voit bien, eh bien, tout ça, ça coûte moins cher. Le coût en est d'autant réduit. Et donc, vous dégagez des marges de manœuvre pour payer un peu mieux les gens, pour avoir des loyers moins chers, etc., etc. Pareil pour le RSA. Il y a un nombre d'allocataires du RSA qui me paraît assez extravagant dans un pays où, alors là, ça repart un peu, mais enfin, il y a quelques années, quand même, il faut lui reconnaître ça, Macron avait un peu réussi à tuer le chômage. Donc pourquoi il y a autant d'allocataires du RSA alors qu'il n'y a plus de chômage? Donc voilà, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise mesure, parce que j'y vois plutôt quand même une manière de simplifier les choses, et je pense que c'est pas une mauvaise chose que de simplifier ces systèmes, mais ces chiffres doivent, à mon sens, nous alarmer. 13 millions de personnes qui perçoivent les APL, c'est pas normal.
Jean-Philippe André.
Ouais, moi je dis, on peut pas éternellement dire, on est dans un système complexe et pas saluer les rares fois où on essaie de simplifier. Mais moi je pense, et je voudrais poursuivre un peu sur ce qu'a dit Charles, je pense qu'on prépare le coup d'après. Le coup d'après, c'est de dire, est-ce que dans ce pays, on doit redonner ou pas de la valeur au travail? Et je pense que, en permettant à une personne de visualiser au mois sur une allocation unique combien je gagne, combien je reçois de l'ensemble de la collectivité, ça permettra de dire quel est le juste écart. Ça va être un gros débat politique, ça. Quel est le juste écart qu'il faut qu'il y ait entre les gens, j'aime pas trop le mot, mais il faut le dire quand même, assister d'une manière ou d'une autre, et ceux qui travaillent. Je crois que c'est le vrai. Et
si ça permettra de mesurer cet écart.
Ouais, et si tu fais pas ce travail de construction. Je note en passant que j'ai lu que tout ceci ne se mettrait en place qu'en 2030.
Oui,
tellement c'est compliqué. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en avril 2014. 2024, pardon.
2026.
Voilà, et on parle de 2030. Donc ça va être complexe à faire.
Mais il faut 4 ans pour mettre ça en place.
Oui, mais si tu le fais pas,
on sera sous
tu
la
as zéro chance.
Poutine à ce moment-là.
On sera sûr.
Sous la présidence Poutine.
Oui, oui.
Et si à 2030, on aura été envahi depuis longtemps.
Et les chars russes seront garés.
On parlera russe. En tout cas, l'administration parlera russe.
Non, mais donc, ça, moi, je suis plutôt favorable à ça oui. parce que c'est un passage obligé.
Bah, c'est ce que le gouvernement dit. Ça permettra quand même de dire qu'il faut que le travail paye plus que les seules aides sociales. Voilà.
Il faut que. Oui, mais non. Il y a un petit angle mort. Il y a un petit angle mort dans l'histoire quand même. Pour que le travail paye plus que les aides sociales, encore faut-il quand même augmenter le travail. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, et moi je suis contre l'assistanat, mais créer un système plus ou moins marche ou crève, on en est très loin en France, hein, mais voilà.
Non mais les salaires sont bas en France.
Si les salaires sont bas, forcément vous poussez pas les gens à travailler. Et ça c'est quand même aussi un énorme sujet. Mais le truc c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque plus vous avez de système social, plus vous alourdissez le coût du travail, plus vous embêtez les entreprises, etc. Et moins vous avez de possibilités de bien payer les gens. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine mauvaise volonté de la part de certaines entreprises, et que le sujet des salaires et des rémunérations en France, et notamment des bas salaires, il demeure un énorme sujet après 10 ans d'une présidence qui s'est quand même concentrée sur les milliardaires et sur les financiers qui gagnent beaucoup d'argent.
Joël.
Non, bah, tu vois, là, ce soir, moi, je participe à un événement qui s'appelle la Nuit de la Liberté. Donc, et le thème de cette nuit, c'est comment rendre, enfin, comment faire
en sorte que. Ce n'est pas une soirée libertine, hein.
Non, pas du tout. La Nuit de la Liberté, c'est à Paris, c'est dans un théâtre. C'est pas une soirée libertine.
C'est pas la Nuit des Libertines.
Pas du tout. Et le sujet, c'est comment rendre de l'argent aux actifs. Eh ben, tu vois, clairement, cette mesure, elle rend pas de l'argent aux actifs. La vérité. Pour financer ces aides, on va peut-être les fusionner, mais c'est toujours sur un budget de 1000 euros de l'État, 580 euros ou 590 euros qui vont dans les prestations sociales. Ouais, c'est simplifié, effectivement. Oui. Mais je veux dire, la part de budget allouée aux différents interventions de l'État, elle reste la même.
Oui, puis à ça moins va qu'on même plus dise... loin. Ça va même plus loin, Joël, parce que toi-même, tu as dit, ça va coûter 1 milliard à mettre en place. Moi, au départ, je pensais qu'on ferait des économies, puisque si tu fais un guichet unique, oui, ça coûte économies. Moins cher, le guichet unique, a priori, que d'avoir trois guichets. Mais je me souviens de la réforme de François Hollande des régions, où on nous avait expliqué, c'est très bien, on va fusionner les régions, on va faire des économies. Puis finalement, ça a coûté plus cher, parce que chacun a gardé son hôtel de région. Enfin bon, c'est devenu absurde. Et là, j'ai un peu peur de ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, le guichet unique, ça va être plus simple. Puis finalement, on va pas supprimer des postes. On va peut-être même alourdir le truc, parce qu'il va falloir recouper les informations. Et au final, on va nous expliquer, ça coûte plus cher que le système actuel.
D'ailleurs, la plupart des services, la plupart des administrations concernées ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles n'étaient pas favorables.
Voilà, bah tiens.
N'est pas favorable, parce que si tu veux derrière, c'est une remise en cause d'administration.
Chacun a peur de perdre son job.
Effectivement, si tu rationalises, et derrière la rationalisation, est-ce que ce sont pas des centaines d'emplois? D'ailleurs, les syndicats ont d'ores et déjà posé, posé des préavis, mais ils ont des avertissements sur la table. On a Sandra qui va en discuter avec nous. Elle est claire de notaire. Elle est du côté de la Bretagne, dans le Finistère. Bonjour, Sandra.
Oui, bonjour,
avant de discuter du sujet, quel temps là, aujourd'hui, en Bretagne, là?
Écoutez, on a un soleil magnifique.
Ah bah, il fait froid, non? J'ai entendu que les températures étaient vachement basses, ouais.
Oui. Bah, après, toujours doux en Bretagne. On a la chance d'avoir toujours un climat qui est très tempéré, donc on ne sent pas trop la différence entre le matin et l'après-midi, mais...
Y compris au mois d'août, effectivement. Hey, alors, Sandra, dites-moi...
c'est un peu entre l'été et l'hiver, pareil.
Qu'est-ce que vous pensez de cette fusion, alors, des allocs? Qu'est-ce que vous en dites?
Bah, moi, je trouve que ce serait une bonne idée, dans la mesure où faudrait quand même le plafonner à un pourcentage du SMIC, parce que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui cumulent quand même une grosse majorité d'aide sociale et qu'au final, en fait, ils gagnent beaucoup plus que quelqu'un qui s'élève pour travailler le matin, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Mais
pourquoi? Vous le voyez autour de vous ou pas, Sandra? Qu'est-ce que vous avez comme exemple, dites-moi?
Eh ben, moi, je connais par exemple pas mal de personnes qui touchent le RSA, qui ne se déclarent pas en fait en couple. Donc, on a les allocations mère isolée, on a des allocations familiales pour les enfants, on a les APL, on a des chèques pour aller faire de l'essence, pour aider à payer son électricité. On paye pas la cantine. On paye pas les soins dentaires, on paye pas, enfin tout ça. Et nous on nous retire un quart de notre salaire en cotisation, quoi.
Ouais. Donc c'est les abus du système. Est-ce que c'est pas plus un problème de contrôle d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ceux qui abusent, ou est-ce que c'est pas plutôt ça le cœur du problème?
Mais je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Regardez, la prime d'activité avait été faite pour aider en fait les personnes à un retour à l'emploi, pour pas que justement il y ait trop de différences et qu'ils ne perdent pas trop d'avantages. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des aides comme ça qui sont mises en place, il y a toujours des personnes qui pervertissent un petit peu le système en se disant, ben voilà, ben moi je vais prendre, au lieu d'aller travailler à plein temps, je vais travailler à mi-temps et je complète avec la prime d'activité. Et en fait, quelqu'un qui va travailler à mi-temps, ouais, et ben, va avoir autant de revenus que quelqu'un qui va travailler à plein temps au SMIC. C'est ça qui est pas normal en fait. Mmh, mmh. Et c'est tout est fait comme ça. Tout systématiquement. Donc, je trouve qu'il devrait quand même y avoir un petit peu.
Ce qui vous énerve, c'est que vous êtes dans une France à deux vitesses. C'est-à-dire, il y a ceux qui travaillent, beaucoup, et ceux qui aujourd'hui ont compris comment profiter du système. Quoi, en fait, c'est ça, Sandra. C'est ce qui nous agace, quoi.
On est à deux à travailler, donc forcément, on est en milieu rural. On n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas de transport en commun, donc on est obligé d'avoir chacun une voiture. Là, vous voyez le prix de l'essence.
Allez, tu m'étonnes.
C'est aberrant. Et en plus, on travaille comme des tarés. Alors après, on fait aussi du, comment dire, on préfère mettre un peu plus de budget dans les courses parce qu'on aime bien manger des choses saines, et puis on cuisine des produits frais, etc. Ouais. Mais à côté de ça, on travaille comme des malades, on part pas en vacances. Ouais. On n'a pas les moyens, on n'a même pas les moyens de se faire des sorties, des restos, etc. Et ça, c'est pas normal, quoi.
Ouais, ok.
Oui, d'accord. Mais avec ces aides sociales, la France s'achète ce qu'on appelle la paix sociale.
Oui, non, mais d'accord.
Voilà. Non, mais c'est.
Sandra, justement, vous entendrez le témoignage de Xavier. Xavier, il est fonctionnaire, il est du côté de l'Allier. Alors, lui aussi, il est pour simplifier, mais il dit attention. Parce que le RSA, ça permet aussi de survivre à des moments dans la vie où on n'est pas bien, où on est limite. Donc Xavier nous en parlera.
En même temps, personne ne propose de supprimer le RSA.
Hein. RSA, APL, est-ce qu'il faut la prime d'activité? Déjà, la prime d'activité, est-ce qu'en soi, c'est pas une aberration de dire aux entreprises, on vous donne un petit coup de main pour que vous puissiez embaucher quelqu'un et le payer. Fusionner ces aides en une allocation unique, bonne ou mauvaise idée? Vous venez en discuter avec les GG, on était dans le Finistère avec Sandra, on sera dans l'Allier dans un instant avec Xavier. À tout de suite avec les Grandes Gueules, il est 9h20.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC et RMC Story. Débat, discussion avec les GG, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, avec Charles Consigny, l'avocat, avec Jean-Philippe André, le chef d'entreprise, ancien patron d'Haribo, qui est avec nous. Xavier veut intervenir au 32-16 parce qu'on parle de cette fusion peut-être du RSA, de l'APL, de la prime d'activité en une ASU, allocation sociale unique. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Xavier? Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas?
Ouais, alors rapidement, moi je vous explique ma situation. J'étais en CDD jusqu'au 31 décembre. Mmh. Je suis en dispo d'une autre municipalité. Et du coup, quand mon CDD s'est fini, j'ai demandé la RE et pour des raisons administratives, j'y avais pas le droit. Donc du jour au lendemain, je me retrouve sans revenu. Et du coup, j'ai demandé pour la première fois de ma vie toutes ces aides. Déjà, je peux vous dire que c'est hyper compliqué. Pour chaque aide différente, il faut remplir quasiment le même dossier. Et en fait, ça met hyper longtemps. Donc, c'est-à-dire que normalement, c'est des aides d'urgence. Et du coup, il faut au moins 2 mois pour les avoir. Moi, je peux vous dire que j'aurais pas eu des économies personnelles de côté. Là, j'aurais été obligé de quitter mon appart. Ça aurait été la dégringolade.
Donc, s'il y avait un seul guichet, ça serait quand même plus simple pour faire les démarches.
Clairement. Et en plus, c'est pas la même temporalité. C'est pas. En plus, après moi, il y a quelque chose que je veux dire, c'est que dire que on peut vivre avec ces aides, c'est pas possible. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. En tout et pour tout, j'ai 500 euros d'aide là, tout cumulé. Donc, je ne vois pas comment on peut vivre. On peut survivre, Mais clairement, j'aurais pas eu d'économie. C'est clair que là, c'était la dégringolade.
Donc, vous, ça vous permet d'attendre de trouver un nouveau job, quoi.
Ça me permet rien du tout. Là, ça y est, j'ai retrouvé du travail.
D'accord.
Mais voilà, ça me permet rien du tout. Ça permet de, je sais pas comment on peut vivre, parce que moi, j'ai un crédit, j'ai mon loyer, j'ai et en tout et pour tout, j'ai droit. Bon, après, moi, je suis un cas particulier, comme j'ai un petit revenu locatif. Du coup, j'ai droit à 140 euros de RSA. Mais je paye mon crédit sur le revenu locatif. Donc, en fait, ça me fait rien. Bon, c'est mon cas particulier. Mais même si on a le droit au RSA de 600 euros plus 200 euros d'APL, je ne vois pas comment on peut vivre. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas ce discours de dire que y a des gens qui vivent de ça. Moi, alors pour mon cas particulier, je connais pas tous les cas, mais même si on est au maximum des aides.
Ouais, certains peuvent y arriver en ayant un petit boulot à côté, éventuellement.
Ouais, moi, je pense qu'il faut rajouter les allocs familiales.
Oui, il y a les allocs familiales aussi. Ouais, donc finalement, bon an, mal an, vous arrivez aux alentours des 1000 euros par mois.
Sincèrement, je pense que tout le monde préfère travailler. Là, vous parlez de cas qui sont à la marge et en faire une généralité, moi, je trouve ça dommage.
Joël,
voilà.
Non, mais Joël, vous voulez répondre.
Je pense que vous sous-estimez la capacité de certaines personnes, je ne sais pas toutes les personnes qui touchent des aides, attention, mais de connaître le système sur le bout des doigts. Moi, je vous assure, je me rappelle, ma fille était à la crèche et j'ai entendu une maman parler donc à l'arrêt de bus, et elles parlaient toutes les deux. Il y en a une qui l'expliquait parfaitement, mais vraiment sur le bout des doigts, où elle devait aller, à quelle porte elle devait taper, quelle aide elle devait avoir, si elle enlevait ça, mais tu auras ça, etc. Il y a des personnes, je vous assure, en France, qui connaissent. Oui, mais parce que vous travaillez et vous êtes dans une autre logique. Je vous assure.
Mais à la marge, peut-être ça existe. Je vous rejoins. Peut-être ça existe.
Oui.
Mais vous essentialisez, c'est vraiment à la marge.
Non. C'est ce que j'ai bien dit. J'ai dit certaines personnes. J'ai bien dit pas toutes les personnes, mais je vous dis que ça existe parce que vous dites comment on peut vivre avec ça. Je vous explique qu'il y a des personnes qui vivent des années avec ça parce que en fait, elles connaissent très bien le système et elles peuvent vous guider dans les arcanes. Pour vous, c'était horrible. Mais il y a des personnes qui peuvent vous guider. Et je vous dis, c'est vraiment deux logiques différentes. Donc ça existe, des personnes qui vivent avec les aides.
Je pense que sincèrement, ils survivent, ils vivent pas. Parce que même si ça leur suffit, peut-être qu'ils sont tombés dans une routine, mais franchement, ça doit être à la marge. On peut rien faire, on peut rien prévoir.
Il y a le travail au noir aussi. Il y en a qui ont les aides sociales, ça leur permet d'avoir un matelas social. Et puis derrière, c'est du travail au noir non déclaré. Il y a aussi ce système-là qui existe. Jean-Philippe.
Bon, moi, je milite depuis très longtemps sur le fait qu'on devrait pouvoir identifier pour chaque personne, et sans faire de procès, là, comme on semble le faire maintenant, de dire quels sont l'ensemble des allocations publiques qui sont versées à une personne. C'est-à-dire avoir cette transparence. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je mets au défi qu'il n'y a aucune administration qui est capable de dire « Monsieur Intel touche des allocations familiales, et puis le RSA, et l'APL, et les primes. » De manière à dire « Tiens, au global, combien vous touchez, monsieur ?» Et je reviens à mon point précédent, c'est-à-dire pourquoi ce serait utile ? Parce que le vrai débat, c'est de dire jusqu'à quel niveau la France, mais c'est un vrai débat politique, a envie d'aller de consentir en termes d'aide à une personne par rapport à une autre qui ne travaille pas. Et je crois que c'est ça le point fondamental. Et le débat est d'autant plus important, à mon avis, qu'il va être nécessaire, parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça des années et des années avec la situation des comptes publics que nous avons. Donc, de toute manière, qu'on le veuille ou pas, alors, on en discutait à la pause, c'est quelque chose qui nécessitera de la transparence, du courage, beaucoup de courage, et ça c'est pas...
Moi, Jean-Philippe, je vous assure que s'il y a un débat comme ça pendant la présidentielle, je me flingue. Si le débat pendant six mois...
C'est salutaire.
Quel niveau d'aide on veut accorder, quel niveau d'aide la France est capable de supporter, et que je n'entends pas parler des gens qui travaillent, qu'est-ce qu'on fait pour leur redonner de l'argent ? Je me flingue, je n'en peux plus. On ne sera pas sur le premier débat sur les aides sociales. Je vous assure, on en a déjà fait des débats sur les aides sociales.
Des rapports, il y en a eu.
Et c'est génial, c'est bien, des simplifications, ce que vous voulez. Mais à la fin, les gens qui bossent, ils sont toujours en train, comme la dame qui avait appelé tout à l'heure, ils sont toujours en train de crever la gueule ouverte. Donc non, je vais me flinguer.
Le vrai débat,
c'est
qu'il faut que le travail paye. Peut-être le vrai débat, c'est surtout, est-ce que le travail paye suffisamment ? Est-ce qu'on travaille assez ? C'est ça, à mon avis, le vrai débat. On ne cesse de dire qu'en France, on travaille un peu moins qu'ailleurs en Europe. Alors, je dis pas, il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais d'une manière générale, si on prend la globalité et on ramène ça à la durée hebdomadaire, on travaille moins que les autres. C'est peut-être ça aussi.
Non, mais je
reprends
Joël. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le vrai débat, c'est la valeur du travail et combien on paye. Les allocations, c'est un débat périphérique à ça. Et ce que tu viens de dire, c'est Est-ce qu'on travaille assez en France? Ça aussi, c'est un débat.
Ça, c'est un sujet tabou.
C'est un sujet tabou. À la semaine, on travaille à peu près comme les autres. À l'année, à peu près dans la moyenne européenne. Les Allemands, d'ailleurs, travaillent même un peu moins que nous. À la vie, on travaille nettement moins que les autres, puisque on rentre beaucoup plus tard et on sort beaucoup plus tôt. Et comme on n'a pas cet argent qui vient d'une plus grande activité, eh bien, on a les problèmes dont on parle aujourd'hui, à savoir, on cherche de l'argent de ci, de là, sur les aides, etc. Mais le vrai débat, c'est ça.
Je remercie Xavier d'avoir été avec nous dans les GG. Merci Xavier de votre intervention. À bientôt dans les grandes gueules. On a Nicolas qui veut réagir. Il est ambulancier du côté de l'Hérault. Bonjour Nicolas.
Bonjour tout le monde, bonjour les grandes gueules.
Bienvenue Nicolas. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on passe à une allocation sociale unique ou pas?
Non, du tout. C'est quoi cette population qui est assistée? On va où? On va où? C'est quoi cette génération nouvelle? Les jeunes, moi je prends l'exemple de mon frère et de ma sœur, sont tombés bien bas, effectivement. Je suis désolé. On ne fait pas la demande quand on est jeune à 19 ans.
Okay, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, votre frère, votre sœur?
Écoutez, ils sont tombés effectivement en recherche d'emploi, d'alternance. Ouais. Ils galéraient comme tout le monde. Mais ils se sont sortis les doigts du cul. Je leur ai dit, on ne vit pas d'aide. On vit de son salaire. À un moment donné, il faut arrêter de taper à la porte de l'État, de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin. Non, mais on va où? C'est quoi cette population? C'est quoi? Directement, les personnes vont trouver un emploi. Directement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, site CAF. Allez, je cherche combien j'ai besoin d'aide, combien je peux avoir, combien. Non, mais on va où? C'est quoi cette population?
Ah, peut-être que vous en aurez besoin à un moment ou un autre. Je vous le souhaite.
Ça s'appelle Nicolas. Non, je suis désolé. Non. Je me sortirai les doigts du cul, comme on dit. Excusez-moi pour mes mots grossiers, mais je me sortirai les doigts du cul pour trouver du travail et de pouvoir subvenir à mes besoins personnels.
Oui, mais là, Nicolas l'ambulancier, c'est Nicolas qui paye.
Exactement.
On est le cœur de Nicolas qui paye.
Moi, sur ma fiche de paye, je l'ai regardé ce matin. Je paye combien tous les mois? Je paye environ 500 euros d'aide pour ces personnes qui sont chez elles à regarder Netflix.
Parce que ça, Nicolas, je comprends la colère. Elle existe. Hein. C'est notamment la classe moyenne qui a l'impression quand même.
Combien vous gagnez par mois, Nicolas, en tant qu'ambulancier?
Pour tous les autres.
Hein. En tant qu'ambulancier, je gagne 1754 euros.
D'accord. Ce qui est pas.
Voilà. Ce qui est pas énorme.
Ouais. Non,
mais
ce qui est pas énorme.
J'ai un petit travail.
Net, ouais.
Net. Quand le SMIC est à 1400, donc il c'est très peu payé, quoi.
Ouais, c'est très peu payé.
Très peu payé.
Oui, mais c'est ça le problème.
Très peu payé.
En bossant combien, Nicolas?
44 heures semaine.
Ouais.
Ah, vous avez des primes?
Nous n'avons pas de primes récurrentes parce que du coup on fait partie de. Enfin, on est payé par la sécurité sociale, donc du coup.
Tu vois, Jean-Philippe, c'est ça le problème, Jean-Philippe, dans ce pays. C'est que Nicolas, qui veut bosser, qui est ambulancier, il ne gagne que 1700 net. Et il bosse, il fait plus de 35 heures.
J'ai ma fiche de paye devant moi.
Et en brut, combien vous gagnez en brut? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse.
On est à peu près à 2000.
2000 euros brut.
Brut, 2000 euros
plus. Plus, ça peut pas être 2000 brut et 1500 net.
Il va avoir 25% de cotisation. Et l'enjeu, c'est pourquoi on a 25% de cotisation?
C'est ça, 25% de cotisation.
C'est ça, 25%, pour la CAF, pour l'assurance chômage,
pour salarial,
ce qui est aide.
Mais Nicolas, vous savez que du côté d'une partie de la gauche, notamment des insoumis, on appelle ça le salaire différé. C'est-à-dire que toutes ces cotisations, à un moment, vous vous y retrouvez quand vous allez à l'hôpital avec la carte vitale, vous vous y retrouvez avec l'école, etc. Ou ça, c'est de la prise en charge que tu n'as pas à sortir, que tu n'as pas à payer, ce qu'on te dit. C'est du salaire différé.
Non, il y a 40% des Français qui se retrouvent pas.
On prend sur ta fiche de paye ces cotisations et derrière, tu les retrouves à l'hôpital, chez le médecin et autres.
Ça fonctionnait en 1984 ou en 1992.
Chez le médecin.
Parce que t'étais assez content quand t'allais, moi, j'ai malheureusement fréquenté les hôpitaux assez souvent, et t'étais assez contente quand t'allais à l'hôpital public. D'ailleurs, il valait mieux aller à l'hôpital public que dans le privé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et puis t'étais assez contente de l'école, etc. Donc moi, je veux bien. C'est aussi le niveau de satisfaction qui a baissé. Donc non, là aujourd'hui, tu t'y retrouves parce qu'en fait, oui, t'as les mêmes prestations, mais la qualité, elle est en deçà. Donc,
oui, mais aller dans n'importe quelle pharmacie de ce pays. Moi, j'ai fait ça récemment. Je suis allé dans une pharmacie là à côté, à Ballard. J'étais au téléphone, donc je suis resté un peu dans la pharmacie avant d'acheter ce que je venais acheter, qui n'était pas remboursé. J'ai vu le défilé. Alors, ininterrompu, hein. Ça ne désemplit pas une pharmacie. C'est un truc hallucinant. C'est le meilleur business qu'on puisse faire. les gens, ils arrivent.
Ils repartent avec des boîtes grandes comme ça, des tubes, des flacons, des machins. Ils repartent avec des stocks énormes. Oui, merci madame. Ça vous fera 2,42€, s'il vous plaît. Merci, vous avez la carte vitale, nana, oui, clac. Ça vous fera 1,12€, s'il vous plaît, madame. Les gens repartent avec des cargaisons de trucs. Donc moi, j'ai regardé ça, j'étais fasciné. Et je me suis dit, mais si c'est comme... J'étais pas à la pharmacie non plus, sur les Champs-Élysées, si tu veux. Il n'y avait pas un trafic de dingue à Ballard, dans une rue obscure. Mais si c'est ça à l'échelle du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si tout le monde vient acheter l'équivalent d'un Sephora pour 2,12€? Ben non, mais je pense qu'il y a quand même à regarder. Je pense qu'il y a quand même à regarder.
Non, mais la vérité, c'est que...
Non, mais c'est la vérité.
T'arrives plus vraiment à voir ces prix si t'as pas la mutuelle à côté. La sécu, en elle-même, je pense que t'es pas aussi bien, t'es plus aussi bien remboursé. Moi, ça m'est arrivé, effectivement, de payer 2,12€, comme tu dis.
Parce que
j'ai une mutuelle que je paye à côté, à 150€ par mois.
Tu verras. Poste-toi à la caisse. Tu verras.
La sécu est...
Et des crèmes pour ceci, et des machins pour cela, et des bonbons à la menthe.
Ça, c'est pas remboursé, les bonbons à la menthe.
Ah, vous avez un peu mal à la tête, je vous prescris 5 boîtes de Doliprane, puis alors on fera peut-être un scanner, on sait jamais, clac, puis vous en referez un dans un mois, clac, puis là vous n'allez pas travailler, vous avez mal à la tête, vous n'allez pas travailler dans votre état, je vous mets 3 mois d'arrêt de travail, clac.
Les prescriptions doubles, c'est un vrai
scandale. Oh là là, 3 mois plus tard où ça va pas beaucoup mieux, allez, je vous remets 3 mois d'arrêt de travail.
Par contre, je vous rajoute des Doliprane, bien
sûr. Oui, c'est ça.
Les Doliprane,
mais c'est vrai que les Doliprane, c'est
grave. Vous avez l'œil un peu inflammé.
Vous avez encore du Doliprane chez vous?
Bah
non, je vous en mets, madame.
Ouais,
et il y a les surprises quand on dit
attends. Oui, c'est ça.
La surprise,
non, oui, c'est
j'en
vrai.
Ah bon,
vrai.
J'en avais. Bon,
oui, ça m'est arrivé.
On va peut-être faire faire des analyses. Le allez, claque les analyses.
Alors, RSA,
25 ans, APL, mal à la tête, analyse.
RSA, APL, prime d'activité, est-ce que c'est un frein à l'emploi selon vous? Vous dites oui. Les aides sociales, vous dites oui, à plus de 78%. Dans un instant, le on s'en fout pas. Merci à tous d'avoir été au 32-16. Et puis tout à l'heure, à 10h, on regardera ce qui s'est passé à Montpellier. Vous avez vu peut-être la vidéo sur les réseaux sociaux, cette altercation entre un professeur de physique et des lycéens. Le professeur a eu le malheur d'avoir un réflexe de mettre une gifle à un lycéen. Derrière, il s'est quand même pris des coups. Il a fallu que d'autres élèves maîtrisent celui qui voulait frapper le professeur. La violence, une fois de plus, dans les salles de classe, plutôt dans les couloirs entre les salles de classe. On l'évoquera avec vous au 32-16 à 10h, peut-être en tant qu'enseignant, si vous avez vous-même été confronté à cette violence. Mais d'abord, ce sera le on s'en fout pas. Restez avec nous, il est 10h-20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Dix heures moins le quart, les GG, les grandes gueules avec vous en direct sur RMC, RMC Story, 10h moins le quart avec Charles Consigny, l'avocat, Joël Dagosseri, la coach de vie, Jean-Philippe André, le chef d'entreprise, ancien patron d'Haribo qui est avec nous aujourd'hui dans les grandes gueules, 10h moins le quart, c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules,
on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Des formations de développement personnel et de bien-être financées par France Travail. Bon, pourquoi pas, une filière en pleine croissance. Hein. Mais on apprend, grâce à un reportage de complément d'enquête diffusé jeudi dernier sur France 2, que certaines formations sortent complètement des clous. Hein. Notamment ce stage qui propose d'aller à la rencontre de créatures imaginaires comme des elfes, des gnomes, des licornes ou encore des lutins. On s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout pas.
Joël? Jean-Philippe?
On peut pas s'en foutre.
Les journalistes racontent, hein, par exemple, que la formatrice, durant ce stage, invite le roi des elfes à rejoindre les stagiaires pour se rendre ensuite dans la forêt, tous ensemble, appeler un dragon. Dans ce reportage aussi, hein, on entend le directeur général de France Travail qui juge cette formation évidemment assez surprenante et un peu loin des objectifs initiaux de l'organisme qui finance, on le rappelle, 300 à 400 000 formations chaque année. Mon cher Jean-Philippe, pourquoi tu t'en fous pas?
Je m'en fous pas. D'abord, moi je suis complètement pour les formations au bien-être. J'adore les formations au bien-être, à condition que je ne les finance pas. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde a le droit de faire des formations au bien-être. Non, je trouve que c'est si le ridicule ne tuait pas, c'est dramatique. France Travail, ça doit être un, c'est une entreprise, c'est une organisation sérieuse. Il doit y avoir 5 milliards de budget sur l'ensemble. J'imagine, c'est un peu le débat tout à l'heure, 90%, je l'espère en tout cas, 90% des formations, j'espère qu'elles vont dans le bon sens.
Ils vont renforcer justement les contrôles.
Voilà, ça va dans le bon sens. Il se trouve que j'ai fréquenté notamment le patron de cette maison. Mais là, c'est scandaleux, non, c'est du foutage de gueule, mauvais jeu de mots pour ici. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter ça tout de suite.
Comment on laisse passer ça surtout?
C'est pas possible. En entreprise, le gars qui ferait ça. C'est-à-dire que on est en difficulté, on a des gros sujets, et un gars au beau milieu de ça, il ferait ça, il serait viré. Hein. Il serait viré. Mmh. Il serait proprement viré parce que c'est quelqu'un qui est hors sol, qui comprend pas les sujets. Et il faut s'en séparer, parce que ces gens-là font du mal. Ils font du mal, et je le répète, aux 99% autres qui ont vraiment besoin de ces formations.
Joël.
Non, mais écoute, la semaine dernière, moi, j'ai commenté le RSA pour les druides. Aujourd'hui,
ah oui.
C'est France Travail qui finance le monde de Narnia. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça? Moi, je vais te dire comment ça arrive, ça, c'est Calliope. C'est Calliope. Calliope, c'est un truc tout bête, très administratif, comme la France connaît bien. Si tu coches bien les bonnes cases, on te délivre ton petit truc Calliope. Ah, t'as ton truc Calliope.
C'est quoi Calliope, je comprends.
Calliope, c'est un peu vert pour être un organisme de formation.
Voilà, un organisme de formation, tout à fait. Et donc, si t'es Calliope, France Travail peut financer à monsieur, madame, tout le monde, ton truc Calliope. Moi, à titre personnel, j'ai toujours refusé. À chaque fois qu'on me demande, oui, vous êtes Calliope, Joël et tout, je dis non. Je me refuse déjà d'avoir un business model qui dépend de l'État. Je me refuse à ça. Et ensuite, je pense que les gens, s'ils veulent se développer, s'émanciper, ils doivent pouvoir utiliser leur propre argent. Donc non, ça c'est encore un truc.
Ah ben, surtout ça.
Bah, Joël évoquait tout à l'heure la possibilité de se flinguer. Là, je crois qu'on y est quand même.
Si deux se flinguent, je vais être seul.
Moi, j'en appelle. Je cherchais son nom, Monsieur Thibault Guilhuy, qui est directeur de France Travail. Il faut prendre des sanctions. C'est comme on a eu le cas de cet otage en Iran qui s'est fait rousté par l'administration fiscale. Finalement, elle a fait amende honorable. Ouais. Je ne sais pas si elle a viré l'agent en question. Je ne pense pas, évidemment, parce que tu comprends, les gens peuvent patauger dans la merde. On les virera pas pour autant. Moi, je trouve que cet agent aurait dû être viré. Et je pense que là, la personne qui a accordé une subvention à cette formation en gnome et elf, où toutes les personnes qui ont eu à connaître de ce truc-là doivent être virées séance tenante. Et d'ailleurs, les gens qui ont suivi cette formation doivent être radiés de France Travail. Mais non, mais il faut mettre un peu de responsabilité à un moment donné. Si on peut faire impunément que des conneries avec l'argent des autres, ce système ne peut pas fonctionner. Donc j'en appelle à Monsieur Thibault Guilhuy, s'il nous entend ce matin, qu'il licencie toutes les personnes qui ont été de près ou de loin liées à ces formations en elfes et en gnome.
On enchaîne.
De grâce.
Les GG, c'était l'une de ses propositions de campagne. Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, veut organiser une course à pied sur le périphérique parisien. Il l'a redit hier au départ du marathon de Paris au micro de France Télé. On s'en fout ou pas, Jean-Philippe?
Je m'en fous complètement, oui.
Charles?
On s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout pas.
Alors, il veut faire ça en concertation avec les communes limitrophes, que ce soit un projet du Grand Paris. Donc, ce que dit le nouvel élu, c'est qu'il y a de très beaux paysages visibles depuis le boulevard périphérique.
Ah bah oui, ah bah.
sur certaines portions.
Il ne doit pas le prendre souvent.
Écoutez, sur certaines portions, on surplombe la ville et on voit Paris de loin. Oui. Et c'est extrêmement beau.
Oh bah.
Fin de citation. Charles Consigny.
Mais après, le week-end avec les enfants, on va sur le périph'.
On fait des tours de périphérie.
C'est tellement beau.
Non, mais.
Cette vue sur Paris.
Charles.
Écoute, ils n'ont que des idées connes. C'est pas de ma faute.
On pensait qu'il était un peu différent d'Anne Hidalgo.
Eh ben non, voilà. Non. On découvre que non, c'est le même. Voilà. Mais bon, les Français, les Parisiens ont voté largement pour Mr. Grégoire. Donc les Français sont pour toutes ces conneries. Les Parisiens sont pour toutes ces conneries. Un des trucs que je trouve très pénible d'ailleurs à Paris, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qui vous bloque quelque part quand vous essayez de circuler.
Là,
dans
c'était
cette
le marathon
ville.
Hier.
Un coup, c'est le marathon. J'étais très content de pas être là d'ailleurs. J'étais avec des gens très bien à la boule parce que voilà. Là, on trouve des gens bien quand même à la boule. Bon.
Avec le pull sur les épaules.
On n'est pas que avec Grégoire et compagnie à fumer des pétards dans le 20e.
Non.
On est à la boule avec un pull sur les épaules. Ben oui, et on a des idées moins. Tu vois, les gens prennent leur bagnole pour aller au resto. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime cette vie-là. Donc,
ces conneries-là. Je pense en avoir ras-le-bol.
La boule qui était en révolte à cause des arbres le long de la jetée.
Oui, on avait le sujet.
Ils ont raison. Qui bloquait la vue sur la mer.
Ils ont raison. Et ça n'a pas de prix, la vue mer. Ben oui. Et on a compris
ce que c'est. Joël, moi, je le verrais bien courir sur le périph'. Joël, je le verrais bien courir sur le périph'.
Moi, je cours, c'est vrai. J'ai déjà fait un semi-marathon. Donc pas encore un marathon.
Alors semi-marathon, c'est de la porte d'Orléans à la porte de la Chapelle, c'est pas tout le périph.
Non. Mais par contre, la belle vue de Paris depuis le périph, moi, pour avoir habité en banlieue toute ma vie et avoir pris le périph pas mal de fois, j'ai jamais vu la belle vue de Paris depuis.
Non, ce qui est beau, c'est la vue sur le périph.
Mais vous savez, mais comme ça a si bien dit Charles, les Parisiens ont voté pour ça. Moi, par exemple, mon chéri et ma fille sont fans d'Emmanuel Grégoire. Ce matin, ma fille, encore, j'étais en train de me maquiller. Elle était derrière moi, elle me disait, t'as vu ce qu'il a dit le nouveau maire de Paris? Alors tous les jours, je sais pas ce qu'elle suit sur TikTok ou quoi que ce soit, mais c'est de son idole. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a encore dit? Il va mettre encore plus de pistes cyclables, ça va être trop bien. Moi, j'adore et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des gens pareils? Donc elle, c'est une future électrice d'Emmanuel Grégoire. Donc voilà, les Parisiens ont voté pour ça, ils auront ça.
Bah, le périphérique, c'est 35 kilomètres. Hein. Et c'est pas la plus grande rocade de France. La plus grande rocade de France, c'est celle de Bordeaux. Je crois qu'il fait une quarantaine de kilomètres. Mais sinon, voilà, c'est le périphérique parisien, c'est 35 kilomètres.
C'est
des éléments d'information.
C'est quand même un débat incroyablement parisien. Moi, à l'instant, j'en reçois un message.
Oui, c'est le Marseillais qui parle.
Qui nous écoute d'Uzès, je peux vous dire qu'il doit dire, mais il délire là en haut à Paris à se poser comme vraie question.
Que tu vis à Marseille.
Oui, on vit à Marseille, excusez-nous. Donc voilà, donc, on n'est ni à La Baule, ni à Paris. Donc,
Uzès dans le Gard.
On termine.
Les GG, la guerre au Moyen-Orient, ce n'est pas du tout fini. Hein. Le premier round des négociations, on fait un flop ce week-end au Pakistan. C'est la question du nucléaire iranien qui a fait échouer les pourparlers. Hier soir, Donald Trump a annoncé le blocus des ports iraniens, blocus qui débuterait aujourd'hui. On s'en fout ou pas, Jean-Philippe?
On s'en fout pas.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Joël? Jean-Philippe?
On s'en fout pas parce que c'est un sujet crucial. Il s'agit de la paix dans le monde. Il s'agit de la. J'étais là, on parlait de Marseille, j'ai côtoyé ce week-end des Iraniens qui manifestaient devant la préfecture à Marseille. Les gens, ils sont terrorisés, quoi. Enfin, ils ont des gens là-bas, ils souffrent beaucoup. Et ils passent le message, je disais que je participais à cette émission aujourd'hui, ils disent, dans tout ce qu'on entend, le peuple iranien est semble-t-il, maintenant, la partie la moins exposée, concernée, et à laquelle la deuxième chose, on s'en fout pas, parce que je veux quand même voir, j'espère quand même qu'il y ait une suite. Ça fait 47 ans que ces gens se parlaient pas. Si pendant 47 ans, je décrète que je veux ta mort, etc., j'ai considéré que c'était quand même bien déjà de pouvoir avoir physiquement le contact, mais l'économie mondiale, la paix et le sort des Iraniens est en jeu. On peut pas s'en foutre de ça.
Charles?
Non, Trump est maintenant embourbé dans ce machin, et en même temps les Iraniens sont extrêmement jusqu'au boutistes. On voit bien que ce sont des gens fanatisés qui ne compteront de les armes quasiment à aucun prix. Donc je pense que des négociations dans cet état d'esprit sont difficiles, d'autant qu'il envoie à chaque fois ses envoyés spéciaux un peu bizarres, qui à mon avis n'ont pas tellement fait la preuve de leur talent diplomatique. Donc je pense qu'on est embourbé pour longtemps dans une situation qui va se geler peu à peu, se calcifier peu à peu là-bas.
Allez, dans un instant, deuxième partie des GG, deuxième partie des Grandes Gueules, on s'intéressera à ce qui s'est passé dans ce lycée Jules Guette de Montpellier, avec cette vidéo, un professeur, une altercation avec des élèves. Tout ça parce qu'un élève n'avait pas voulu décliner son identité, le professeur a essayé de le filmer, l'élève n'a pas apprécié, il l'a repoussé, le professeur a donné une gifle. Alors, le prof s'est excusé d'avoir donné une gifle, une espèce de réflexe d'autorité contre l'élève. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il a manqué de se faire casser la figure.
Mais il s'est fait rouer de coups.
On en parle.
Il s'est fait même quasiment lyncher par terre.
On en parle au 32-16. À tout de suite avec les grandes
gueules. Il minimise.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.